Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur RMC pour un dimanche particulier. Imaginez un 10 octobre, voir l'équipe de France remporter un trophée.
Waouh!
À cette Ligue des Nations, finalement, on s'est pris au jeu. En tout cas, moi, je me suis pris au jeu. France-Espagne, c'est ce soir à 20h45 et on va en parler longuement avec notre membre de la Dream Team, champion d'Europe 84 avec les Bleus, mais jamais vainqueur de la Ligue des Nations.
Mais comment se fait-ce?
Salut Manu Amoros.
Salut messieurs, comment allez-vous?
Bah ça va, quand on est avec toi, on est toujours très heureux.
Ah
toi,
bah c'est gentil, impeccable, tout va bien. Vous avez planté vos petits drapeaux sur le balcon?
Bah bien évidemment, sur le balcon.
Allez la France.
Alors Thibaut, comme il a de gros moyens, c'est un grand jardin. Moi c'est un petit balcon, ouais.
Oussem, qui est là aussi, Oussem avec le même palmarès en Ligue des Nations que Manu Amoros.
Je suis bien content d'avoir le même palmarès que Manu. Grande journée football, tu l'as dit, la Ligue des Nations à l'honneur. Petite finale, Italie-Belgique à 15h. Sur RMC, ça sera à suivre en intégralité. Et surtout, on en parle depuis tout à l'heure, un trophée à aller chercher ce soir pour l'équipe de France face à l'Espagne. Tout au long de la journée, on vous donnera les dernières infos autour de cette affiche. On ira voir dans quelques minutes Jeannot Rességuier depuis Milan, qui suit les Bleus à la trace. Il sait tout de leur quotidien. À 14h, on n'oublie pas qu'il y a de la Formule 1 direction Istanbul pour le Grand Prix de Turquie. Hamilton partira à la 11e place pour tenter une remontada encore une fois. Et le Français Pierre Gasly, lui, partira à la 4e position sur cette grille de départ.
Et vous êtes avec nous, bien sûr, sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le Direct Studio et au 32-16 pour venir réagir, pour venir poser vos questions, pour venir débattre avec Manu Amoros.
Avant qu'on démarre, on reçoit des messages sur le Direct Studio. Ça n'a rien à voir, mais on a Laurent qui envoie « Bonjour les amis, nous avons un champion du monde de karaté, Wukf, je ne sais pas ce que ça veut dire, vétéran, c'est pas rien. A priori, tout le monde s'en fout, mais il représente quand même la France, il s'appelle Lionel Aquino. Merci à lui, on embrasse Lionel Aquino et félicitations Lionel. » Aquino.
Et on le remercie pour son message.
Merci
Lionel, peut-être pour ton message directement. Dans un instant, on va prendre la direction de Milan, San Siro, où la finale a lieu ce soir. On va retrouver Jeannot Rességuier. Mais déjà, Manu, j'aimerais t'entendre sur cette Ligue des Nations. Finalement, tu vois, on est là le 10 octobre, un trophée à aller chercher ce soir. Est-ce que finalement, elle te plaît ou pas, cette Ligue des Nations?
Pas des masses, parce que ça fait des matchs supplémentaires pour les joueurs, donc des fatigues supplémentaires, des risques.
C'était des matchs
des
amicaux avant, en fait. C'est pas vraiment des matchs supplémentaires, ça. Remplacer des matchs amicaux avec
eux. Ouais, mais tu sais, les matchs amicaux, tu es pas à 100%. Alors que là, t'es obligé d'être, c'est quand même une compétition. Il y a, comme tu le disais, un titre à aller gagner. Donc, ça devient un match officiel et un match important. Parce que il faut remporter, je sais pas à quoi ça amène cette
un
finale
trophée,
et le vainqueur.
Un trophée.
À part le trophée, est-ce que ça qualifie pour la Coupe du Monde? Non.
Ça donne une place.
Ça peut participer aux gens qui ne sont pas qualifiés directement à récupérer une place de barrage, je crois.
Oui, c'est ça.
Mais à part ça, franchement, quel intérêt?
Alors Manu, je vais te dire.
Parce qu'on risque d'avoir des blessures. Les clubs vont pas être contents si un joueur rentre avec une blessure, parce qu'il y a un certain temps qu'il récupère et qu'il revienne pour jouer. Donc voilà. Après, bien sûr que c'est des matchs intéressants quand on voit l'Italie et l'Espagne, quand on voit un France-Belgique, c'est des matchs intéressants, on s'installe devant la télé, on regarde. Oui.
Manu, déjà rien que le fait de pouvoir encore taper les Belges en demi-finale, c'est quand même une réussite avec la nation, on va pas se mentir.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Bon, en tout cas, j'étais chaud, motivé, tu viens de...
Et t'as refroidi.
Je t'ai refroidi.
Tu m'as tué dans le fleuve. Regarde Manu, on va aller tout de suite prendre la température sur place. À Milan, allez, où aura lieu ce soir la finale de cette Ligue des Champions, on retrouve notre globe trottoir, la voix du foot.
Merci Jeannot de le reprendre, s'il te plaît.
Justement, c'était pour voir si vous suiviez. Tout le monde est concentré, ça fait plaisir. Jeannot Rességuier, vous l'avez entendu, est en direct.
Salut à tous.
Salut Jeannot.
Bon, Jeannot, il nous a un peu cassé notre Ligue des Nations.
Mais non, mais il y a des points, il y a des points FIFA, il y a un petit peu d'argent quand même. Si tu gagnes, t'as 10 millions d'euros pour la fédération, enfin 30% pour les joueurs, puisque c'est comme ça que ça se passe avec Noël Le Graët. Mais non, mais il y a la possibilité de gagner un peu d'argent. Vous l'avez bien expliqué par rapport au barrage. Bon, même si la France est à une victoire maintenant d'une qualification directe pour la Coupe du Monde après la victoire de l'Ukraine hier en Finlande, par exemple. Mais de toute façon, qu'il y ait Ligue des Nations ou qu'il n'y ait pas, il y avait des matchs de programmés. Ça aurait été des matchs amicaux, avec la complexité parfois de caler ces matchs amicaux, de les caler aussi d'un point de vue financier, parce que ça se monnaie aussi. Là, tout est réglé par l'UEFA, qui en plus récupère des droits télé et vous donne des primes à la clé. Et un trophée. Bon, c'est pas si mal que ça, non?
Ouais, mais Jeannot, dans l'intensité quand même de ces matchs-là, c'est beaucoup plus important qu'un match amical.
Mais tant mieux pour le spectacle, Manu. Non,
mais oui, voilà, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais dans la situation aujourd'hui où sont les clubs financièrement, s'il y a des joueurs importants qui se blessent, que tu n'arrives pas à les avoir dans ton club pour ton championnat et éventuellement pour la Ligue d'Europe, donc ça devient compliqué.
Oui, mais Manu, il se serait blessé aussi. Hein, France-Azerbaïdjan, il se serait blessé aussi.
Et puis, ce serait tu prends des moins de risques pour la Coupe du
match
Monde.
Oui, mais un match amical, tu prends beaucoup moins de risques parce qu'à la moindre alerte, Bob, tu arrêtes. Alors que là, moindre alerte, Manu, tu continues parce que c'est l'Espagne en face.
Jeannot. Il faut tout repositionner aussi. La Covid est passée par là. La finale à 4 n'aurait pas été jouée au mois d'octobre. Le calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde n'aurait pas été bousculé, resserré, ou quand même en septembre, rappelez-vous, il y a eu 3 matchs. Il n'y en aurait eu que 2. Il y aurait eu la possibilité d'y glisser peut-être un match amical. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, jouer la Belgique, jouer l'Espagne, dans la perspective d'aller... Alors certes, là aussi, on est dans un cas particulier. La Coupe du Monde de 2022, elle n'est pas en juin, elle va avoir lieu dans un an. Un petit peu plus d'un an, entre novembre et décembre. 18 novembre et 18 décembre. Mais voilà, ça veut dire quelque part qu'avec ce genre de gros match, tu as des équipes, des nations qui sont capables de se préparer dans la perspective, justement, d'être au top pour d'autres gros rendez-vous. Rappelle-toi la phrase de Deschamps lundi dernier, quand il est à Clairefontaine. Une parenthèse enchantée. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et quand tu sais qu'il est compétiteur et qu'il a un peu les boules de tout ce qui s'est passé à l'Euro et l'élimination en huitième de finale et des critiques sur sa façon de gérer son management, autant te dire que les joueurs depuis lundi sont bien préparés pour aller chercher le trophée.
Jeannot, on profite de ta présence, toi.
Il échappe ou mon Manu, je sais pas ce qu'il a.
Je dis tant mieux. Au contraire, ça permet aussi aux entraîneurs de pouvoir dans ces matchs-là d'essayer des joueurs
on est déçu, Manu. Toi, le joueur spectaculaire que tu étais, tu préfères regarder un France-Azerbaïdjan. On est déçu, c'est rien. Jeannot, profite de ta présence, toi. T'es au quotidien donc avec l'équipe de France. Avant de rentrer dans le détail de la composition d'équipe qui affrontera probablement donc ce soir l'Espagne. Comment les Bleus ont digéré cette victoire face à la Belgique? Quels ont été les joueurs qui ont suivi? Comment ça s'est passé?
Ah, ils ont été galvanisés par ce qui s'est passé. Au-delà du discours de Deschamps dans le vestiaire, de la prise de parole de Pogba et du Goloris pour montrer que ce collectif-là allait avoir la force de renverser ce match, ce qu'ils ont fait. Derrière, ils ont apprécié, ils ont préparé et surtout récupéré le fait qu'il y ait un jour de moins que pour l'Espagne dans la préparation de cette finale, alors qu'ils avaient un jour de plus que les autres pour préparer le match contre la Belgique. Donc récupération, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas eu de mise en place tactique hier à San Siro et que l'équipe de France ce matin a fait un réveil musculaire, on va dire un petit peu plus poussé que le réveil musculaire de jour de match traditionnel. Après la composition d'équipe, si je vous dis que Deschamps a de grandes chances de rester dans le même schéma tactique, je vous invente rien parce que c'est Finlande, Espagne, et il n'y a pas de raison qui change. Belgique, il n'y a pas de raison qui change contre l'Espagne, et que peut-être c'est une manière aussi d'installer ce système-là avec trois axios. On savait qu'il n'y aurait pas Rabiot, puisqu'il a été touché par la Covid, et qu'il est resté à Turin, à l'isolement. Donc Tchouaméni, logiquement, va être titulaire au milieu de terrain avec Pogba. Pavard dans le couloir droit. Et Théo Hernandez dans le couloir gauche. Je dis ça de manière à préciser que Lucas était dans les trois contre la Belgique et Kimpembe devrait le remplacer dans ces trois avec Varane et Koundé.
Coaching, Jeannot, et pas de blessure, c'est un coaching, c'est un choix du coach.
C'est un coaching. Ouais. Apparemment, c'est un coaching. On était plus dans l'expectative hier et on se posait la question de savoir si c'était pas Théo qui allait faire les frais avec seulement 2 sélections, même s'il a marqué ce but de la qualification pour la finale et de laisser l'expérience à Hernandez, Lucas, ça veut dire quelque part que comme Lucas est utilisé avec le Bayern en tant qu'axial dans une défense à 4, il joue le côté habitude le côté piston qui plaît beaucoup plus à Deschamps pour le profil de Théo Hernandez et peut-être aussi sa qualité de centre au-delà de la qualité de frappe que l'on a pu juger contre la Belgique.
Il est 13h15, vous êtes sur RMC l'intégrale foot. Jeannot Rességuet est en direct de Milan où aura lieu ce soir cette finale de Ligue des Nations France-Espagne. On est toujours avec Manu Amoros. Dans un instant, on va prendre Julien qui a fait le 32-16. N'hésitez pas si vous voulez réagir. Manu, on voudrait t'entendre déjà sur ce système. Ça fait trois matchs que l'équipe de France joue. Alors en 3-5-2, 3-4-3, bon, en tout cas à trois défenseurs centraux derrière, comme le disait Jeannot, avec deux pistons, avec deux milieux récupérateurs, Griezmann en 10 et Benzema et Mbappé devant. Déjà, est-ce que, selon toi, Manu, sur ce que tu as vu, en connaissant les joueurs qui sont dans le groupe de cette équipe de France, est-ce que Deschamps, ce système, il doit l'installer durablement? Est-ce que l'équipe de France doit jouer durablement dans ce système-là?
Moi, je pense que oui, parce que donc le 3-4-1-2 est très efficace. Mais le seul bémol que je mettrais, c'est que à la perte du ballon, il ne faut pas reculer. Et on a toujours tendance, on l'a vu contre la Belgique, hein, à la perte du ballon, les joueurs revenaient pratiquement dans leur camp et attendaient les Belges. Alors que c'est fait un système-là en trois défenseurs centraux, à aller chercher et à aller pressé très haut. Alors c'est vrai qu'on doit laisser ressortir le ballon de l'équipe adverse, mais après il faut que chacun prenne bien sa place pour aller presser en permanence. Donc ce schéma permet de jouer très très haut et permet de récupérer le ballon assez rapidement et très haut. Donc c'est un schéma moi qui me plaît beaucoup. Après il y a bien sûr des automatismes qui doivent beaucoup se créer entre Pavard et Koundé et Théo Lucas avec Kimpembe. C'est un schéma qui doit être ajusté davantage par rapport au match. Mais le problème qu'il y a, il y a beaucoup de considérations aussi que Deschamps met dans l'équipe adverse. On place souvent des joueurs quand il y a des joueurs importants de l'autre côté. On place des joueurs en fonction de joueurs adverses. Donc, je pense qu'il faut laisser peut-être de côté tout ça et mettre son schéma à l'entraînement et pouvoir le développer et le faire dans la continuité des matchs qui sont à venir.
Julien, donc, a fait le 32-16. Salut, Julien. Julien, es-tu là?
Il est là. Julien est là, oui, tout à fait.
Salut, Julien. Tu as entendu ce que Manu disait à propos du système français. Est-ce que toi, tu as été satisfait de ce système face à la Belgique? Est-ce que tu l'aurais reconduit à la tête de l'équipe de France?
Alors, il faut dire que c'est vrai que si le score du match contre la Belgique avait été différent, j'aurais peut-être pas tenu le même discours. Mais il est vrai qu'on voit quand même de plus en plus les trois devants qui arrivent à beaucoup mieux se trouver. Et c'est vrai que c'est quand même super agréable à regarder, surtout quand on a des gars comme Mbappé qui sont stratosphériques, quoi. Donc il est vrai que, enfin, moi je vais pas dire que je suis confiant pour ce soir parce qu'on a quand même l'Espagne en face. Il va pas y avoir un score fleuve, mais le fait d'avoir eu ces
le jeune équipe espagnole quand même, hein.
Oui, bien sûr, mais ils vont vouloir en découdre. Enfin, tu connais Jeannot, on va dire l'antagonisme avec entre la France et l'Espagne. Donc je pense que même s'ils sont jeunes, ils vont vouloir
avec la Belgique.
Ils vont vouloir démontrer plein de choses face à nous, même si je pense qu'on est quand même favori. Au niveau tactique, je pense que le fait que Rabiot ait eu le Covid, malheureusement pour lui, c'est bien pour nous parce que j'ai pas trouvé exceptionnel la dernière fois. Voilà. Donc je pense qu'on a toutes nos chances pour gagner cette compétition. En plus, on a quand même, je pense que ce qui joue pour nous, c'est le mental. Qu'on a quand même une équipe, on l'a vu contre la Belgique, au moment où la Belgique a baissé d'intensité, suite notamment au départ de Hazard, on a vu la France qui s'est remobilisée. Je pense qu'on a quelque chose en plus que les Espagnols n'ont pas, c'est l'envie, la niaque, voilà. Et ça compte énormément dans un sport camp. Enfin, je l'apprends à personne. Enfin, c'est pas Manu qui va me contredire, bien sûr.
Fais attention aujourd'hui, Manu est d'humeur à contredire tout le monde.
Non. Mais bon, il a un petit côté espagnol aussi, hein. Donc,
Un petit peu. Mais bon, il faut pas non plus attendre chaque fois être mené 2-0 et se faire boucher dans le vestiaire pour revenir et battre l'équipe adverse 3-2.
Ça a pu marcher cette semaine, mais ça marchera pas contre tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et là où je suis d'accord, c'est que le nouveau système, ça demande une très grande discipline et il faut presser pour être efficace, c'est une certitude. Enfin, Manu a tout dit, hein. Pour que ce système fonctionne, il faut être vigilant derrière et il faut surtout ne pas reculer, presser pour essayer de mettre le doute dans l'adversaire et puis pour aller de l'avant. Et puis ensuite, on sait qu'on a les moyens devant entre Griezmann, Mbappé et Benzema de pouvoir faire des différences. Mais voilà, même si l'équipe d'Espagne est une équipe jeune, elle va vouloir prouver quelque chose. Mmh. Et moi, même si mon nom ne l'indique pas, j'ai un peu des origines espagnoles, mais j'espère avant tout la victoire de l'équipe de France dans cette compétition, qui en plus nous permettrait, nous Français, de un peu mieux l'appréhender, parce que c'est que pour nous, la destination, c'est un peu le mystère, quoi. Voilà.
Julien, c'est quoi ton nom?
Donzel. Voilà, y a rien d'espagnol.
Ouais, ouais, effectivement. Bon, voilà. Ouais, rien à voir. Julien, merci en tout cas d'avoir fait le 32-16. Merci beaucoup. Passez une bonne journée.
Mais ma maman s'appelle Gomez. Hein, voilà.
Ah. Comme ça, ah. Vous avez tout, hein. Là, d'accord. Ok. Là, okay. D'accord. Voilà. Passe une bonne journée, Julien, et bon match alors entre tes deux nations de cœur. À bientôt sur RMC.
Merci.
Tiens, Jeannot, je voudrais rebondir. C'est vrai que Julien a parlé de l'absence d'Adrien Rabiot. A priori, pour le remplacer, Tchouaméni directement là ce soir.
Oui, tout à fait. C'est la tendance. Comme on dit dans le langage des jeunes, il le kiffe. Deschamps, il adore ce joueur. Il en a parlé. Il en a parlé avec Kovacs d'ailleurs. Quand il s'est déplacé à Monaco récemment, ça fait un petit moment que l'ex-espoir, et même avec le brassard de capitaine, à un moment donné, était sur les tablettes de Didier Deschamps. Il réalise déjà une belle fin de saison dernière et il est énorme depuis le début de la saison, et quand il est arrivé en équipe de France et qu'il a joué ses premières minutes, il a tout simplement démontré que il fait partie de cette nouvelle génération qui a peur de rien, quoi.
Manu, tu as l'air d'approuver tout ça.
Qui est capable de s'adapter, quoi.
Oui, complètement. Je crois que il y a des choses qui peuvent se ressentir une fois que tu es à l'intérieur du groupe. Donc c'est vrai que Tchouaméni est un excellent joueur, et s'il y a un défaillant comme Rabiot qui a la Covid, le remplaçant, je pense que Tchouaméni peut amener certaines choses. Puis on l'a vu en plus.
Et n'oublions pas que Kanté n'est pas là, parce que lui aussi a la Covid.
Oui,
à l'isolement, il aurait pu.
Non, on peut pas faire avec les absents aussi.
Non, mais je précise. Je précise que N'Golo Kanté, c'est le titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il va falloir le déboulonner, lui aussi.
Moi, je mettrais un petit doute sur Kondé, non. Je l'ai pas vu faire un grand match contre la Belgique. Et il a manqué un petit peu de cohésion avec Pavard sur le côté, surtout sur le premier but de Carrasso. Et qui se laisse emporter peut-être un peu plus sur le côté et ne couvre pas, ne fait pas trop de couverture, il reste pas bien en ligne avec les trois centraux.
Et il n'a pas l'habitude non plus de jouer comme ça, défense à trois. Il y a joué très rarement avec Séville, mais bon, voilà, j'ai prononcé le nom de son club, Séville. Les attaquants en face, il les connaît. Il y a peut-être ça qui joue en sa faveur. Et puis je voyais pas, moi, très honnêtement, ou je vois pas, puisqu'on n'a pas encore la confirmation, Deschamps complètement chambouler la structure de ces trois actions. Par rapport à Upamecano, par rapport à l'anglais qui n'est pas là, mais bon, voilà, c'était je parle de l'anglais parce qu'il a joué dans ce système là
et
notamment contre les Suisses. Donc ça veut dire quelque part que il tient compte un petit peu de tout, quoi, et que quand Théo Hernandez, s'il s'est confirmé qu'il est titulaire sur le côté gauche, voilà, il pourrait avoir en face de lui un Ferran Torres ou un Jérémy Pino ou un Oyarzabal quand il permute, donc des joueurs qu'il a connu aussi à l'époque de l'Atlético et du Real.
Des messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, petite K qui nous dit qui est très dur avec Rabiot, hein, peut-être qu'avec son Covid et son absence ce soir, on s'est aperçu enfin que Rabiot ne servait à rien en équipe de France, tout comme Léo Dubois.
Non, mais là c'est trop fort. Là.
Oui, c'est beaucoup. Mais après, c'est son avis. Hein, il le donne.
C'est son point de vue.
C'est trop pour Rabiot. Pour Léo Dubois, un peu moins.
Rappelons quand même que Rabiot, il a dépanné dans un rôle un peu particulier à l'Euro. Voilà. Donc, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, en revenant en équipe de France, a démontré très vite qu'il était un peu couteau suisse, un peu à la Matuidi, avec peut-être moins d'assurance que Blaise Matuidi, mais ça, il va l'acquérir petit à petit. Et j'espère pour lui qu'il reviendra en équipe de France et qu'il aura toujours la possibilité de postuler sur une place de titulaire.
L'intégrale foot continue sur RMC avec Jeannot Rességuier en direct de Milan, avec Manu Amoros en direct de chez lui, avec Oussama, avec vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio au 32-16 également. Faites comme Julien, appelez-nous, venez débattre avec Manu, avec Jeannot. Dans un instant, on va s'intéresser au côté offensif de la force. On a beaucoup parlé dans ce système de la défense, la solidité. On va s'intéresser au trio de devant. Est-ce le grand soir du trio Mbappé, Benzema, Griezmann? On vous attend au 32-16. Et puis d'ici là, on vous rappelle, d'ici ce France-Espagne de 20h45 ce soir, le foot, ce sera dès 15h le direct avec la petite finale, le match pour la troisième place entre l'Italie et la Belgique. Et puis à 14h le Grand Prix de Formule 1 de Turquie. L'intégral foot revient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Excellent dimanche, 13h28. Merci d'être sur RMC. Manu Amoureux, c'est là comme tous les dimanches. Ligue 1, pas Ligue 1. Il est là, notre membre de la Dream Team. Jeannot Rességuier est également avec nous. En direct de Milan. On parle foot et Ligue des Nations dans un instant, Oussem.
Oui, on va enchaîner. Après avoir parlé de la défense du milieu de terrain, on va parler du trio d'attaque Mbappé, Benzema, Griezmann. Est-ce que c'est le grand soir? Sont-ils complémentaires? Griezmann était un peu en dessous face à la Belgique. Sera-t-il au niveau ce soir pour la finale face à l'Espagne? On en parle dans un instant. N'hésitez pas à faire le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC, le Direct Studio. Faites comme Azeu qui envoie plusieurs vérités. Il envoie un message, il dit salut les beaux gosses, première vérité. Question idiote, ça c'est pas une vérité. Si on avait des matchs amicaux, est-ce que l'équipe aurait vu reconduire 9 mêmes titulaires que le match précédent? C'est ce que disait Manu tout à l'heure. Les joueurs ne tournent pas dans ce type de match parce qu'il y a une compétition. En tout cas, se taper des grosses équipes et pas à l'autre bout de l'Europe, c'est vraiment excitant. D'accord. Et là, il rejoint Jeannot, il rejoint Thibaut, il me rejoint. N'hésitez pas, le 32-16, le hashtag RMC Live et l'application RMC Direct Studio.
Et juste avant l'un de nos directs, en attendant le direct du foot, le direct de la Formule 1 dans une demi-heure avec le Grand Prix de Turquie, il y a du cyclisme aujourd'hui. La saison est presque terminée. Hier, Tadej Pogacar a remporté la dernière classique de la saison.
Et oui, Tour de Lombardie.
Tour de Lombardie, effectivement. Aujourd'hui, c'est Paris Tour qui nous intéresse sur RMC avec Arnaud Souk, évidemment. Salut Arnaud.
Le dernier monument de la saison. Salut messieurs.
Salut Arnaud.
Et Thibaut, salut à toutes et à tous. Oui, parce que Paris Tour, ça reste quand même une classique. Ça n'est pas une classique monumentale, mais ça reste également à la classique des feuilles mortes qui fête cette année tout de même sa 115e édition. Autant vous dire que voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et cette année on en a la preuve parce qu'il y a quand même un très joli plateau qui se présente à nous. Alors avant, vous connaissez un petit peu l'histoire de Paris-Tours, c'était un petit peu sabre au clair, on va dire. On allait tout droit à travers la campagne, on arrivait directement à avenue de Gramont à Tours. Et bien on a un petit peu changé de format depuis quelques années avec les passages dans ces fameux chemins de vigne et quelques petites côtes également en fin de parcours. Donc oui, il y a des sprinteurs, il y a notamment pour les Français Christophe Laporte, Brian Coquard, Arnaud Démare. Pour les étrangers, on a également le Néerlandais Kisbol, on a le Danois Casper Pedersen, on a Dylan Groenewegen, on a Jasper Philipsen, bref, de grands noms du sprint. Mais parviendront-ils tout à l'heure justement à tirer leur épingle du jeu? Rien n'est moins sûr, parce que donc, comme je vous le disais, ces chemins de vigne, eh bien, ils sèment un petit peu la zizanie depuis quelques années. Et on a constaté à chaque fois que c'était des petits groupes qui arrivaient, qui se disputaient la victoire, comme on avait vu par exemple Søren Krag Andersen, comme on avait vu Casper Pedersen l'an passé s'imposer sur le fil devant Benoît Cosnefroy. Donc ça nous promet vraiment un final assez incroyable. Pour l'instant, à 148 km 800 de l'arrivée et après 1h32 minutes de course, ils sont trois en tête, parmi lesquels le Français Julien Duvalde d'AG2R Citroën, qui dispute sa dernière course professionnelle, 7 minutes et 50 secondes d'avance sur le peloton.
Merci Arnaud, à tout à l'heure. Paris Tour à vivre en direct sur RMC. 13h31, retour au foot avec Manu Amoros, avec Jeannot Rességuier. On s'intéresse à ce trio d'attaque. Est-ce le grand soir du trio Mbappé, Benzema, Griezmann? Manu,
oui.
Déjà sur les trois hommes dans ce système, est-ce que tu nous parlais tout à l'heure de l'aspect plutôt défensif de ce système à trois derrière. Est-ce qu'ils sont dans les meilleures conditions pour briller là, les trois?
Alors moi je te dirais qu'ils s'améliorent au fur et à mesure des matchs. Donc bon, j'invente pas grand chose, puisque on l'a pu s'en apercevoir ces derniers matchs contre la Belgique et autres. Mais moi je pense que le positionnement d'Mbappé aussi est très bon, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de liberté devant. Il aime bien prendre le ballon, aller d'un côté, aller de l'autre, aller chercher le 1 contre 1, prendre de vitesse ses défenseurs, tout ça. Donc c'est dans son état d'esprit. Après, bien sûr qu'il y a une entente avec Benzema, parce que Benzema il lit très très bien le jeu de Kylian Mbappé. Donc ils essaient de toujours se positionner pour mettre en valeur, je dirais, Kylian Mbappé, parce que souvent on les voit faire des 1-2 et Benzema s'y prête chaque fois à se présenter pour qu'il puisse faire un 1-2. Il s'y prête aussi quand Kylian Mbappé déborde et qu'il arrive à se retrouver dans un schéma où soit au premier poteau, soit ou dans l'axe, soit au second poteau. Voilà. Et cette entente entre les deux est très bonne. Après, Griezmann est beaucoup plus, je dirais, un peu effacé, parce que ces deux joueurs-là prennent vraiment le dessus sur le troisième attaquant, je dirais. Donc à partir de là, il faudrait que lui, il est souvent dans des zones où peut-être il devrait pas y être, où le positionnement qu'il a, il ne peut-être pas très bon, mais il y a un certain, renouveau de ces trois joueurs-là qui arrivent doucement à pouvoir s'entendre et à pouvoir faire circuler le ballon et à marquer des buts. Parce que quand on voit le but de Benzema, c'est quand même un but de renard dans la surface où il récupère ce ballon, ce petit contrôle et il tacle ou il tire dans le petit coin. Donc voilà, il y a une belle entente. Il faut qu'elle continue. Mais est-ce qu'elle va pouvoir continuer longtemps si Griezmann ne brille pas trop? Ouais. Ça, on n'en sait rien.
Jeannot, disons-le clairement, c'est un système qui a été dessiné pour que les trois soient dans une position préférentielle.
Oui et non. Enfin, oui, parce que on a le sentiment qu'il y a plus de liberté pour les uns et les autres. Sur le match contre la Belgique, c'est la première fois que les trois sont impliqués sur les buts de l'équipe de France. Après, ce fait d'avoir autant de liberté, d'être un coup à droite, un coup à gauche, le seul qui finalement reste dans l'axe mais qui décroche, c'est Karim Benzema. On a le sentiment que au fil des minutes, il y en a que 637 minutes qui jouent ensemble, 8 matchs au total, puisque les deux derniers, Mbappé n'avait pas participé au mois de septembre dernier, avec sa blessure au mollet. Ça veut dire quelque part que plus ils vont jouer ensemble et plus ils vont s'y habituer et plus ils vont peut-être se trouver. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est Antoine Griezmann qui l'a dit hier, avant-hier, lors de la conférence de presse au Stade Olympique du Torino, pour justement venir parler par rapport à sa 100e sélection. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Manu Amoros, même si c'est vrai que il a pas été bon avec le Barça, ça a été un loupé, mais n'empêche qu'il est resté avec l'équipe de France et que en étant avec l'équipe de France, il a eu des meilleures statistiques. Qu'avec le club de Barcelone. Son retour avec l'Atlético se fait gentiment mais sûrement. C'est pas moi qui le dis, c'est Coquet qui en a parlé, son partenaire de l'Atlético et qui va être adversaire de Griezmann ce soir avec l'Espagne. Mais sans sélection ce soir, 57e match consécutif en équipe de France. Sur 41 buts qu'il a marqués, il en a mis 21 sur la série des 57. Alors il n'a pas été très souvent remplaçant, mais il a été de temps en temps remplaçant. Donc ça veut dire que c'est une pièce maîtresse pour Didier Deschamps, mais que ça dure pas, c'est pas récent. Ça dure depuis qu'il a décidé de l'intégrer le 6 mars 2014, où souvenez-vous, c'était avant la Coupe du Monde, où il l'intègre contre un match contre les Pays-Bas où il fait déjà sensation, et que Deschamps, sélectionneur depuis août 2012, voulait l'intégrer plus vite, sauf que voilà, il avait fait une bêtise à l'époque avec les espoirs au Havre, où il avait eu cette virée nocturne et qu'il avait été suspendu de sélection, de toute sélection, pendant un an jusqu'au 31 décembre 2013. Donc voilà, c'est quelqu'un sur lequel il s'appuie, et de Griezmann avec Benzema et Mbappé, ces solutions-là doivent se trouver, et je trouve que sur la Belgique, ça s'est plutôt bien passé.
Dans une demi-heure, on sera en direct avec Fred Hermel qui nous donnera les toutes dernières informations concernant cette équipe d'Espagne que les Bleus affrontent ce soir en finale de la Ligue des Nations à 20h45 sur RMC. On va juste écouter d'ici là Luis Enrique, le sélectionneur de cette équipe d'Espagne, parce qu'il était hier en conférence de presse et il a été interrogé sur ce trio d'attaque français, Mbappé, Benzema, Griezmann. La réponse de Luis Enrique.
C'est indiscutable que leurs attaquants sont incroyables et qu'ils peuvent faire changer le cours d'un match. Mais non, on ne va pas changer notre équipe pour autant. C'est un sport collectif. On a battu le champion d'Europe. À nous de battre le champion du monde. Il n'y a pas meilleure motivation. Je veux préparer le match de la meilleure façon possible. Ce qui m'intéresse, c'est jouer une finale et gagner un titre avec cette sélection. Ce serait une référence et si on peut faire plaisir à nos supporters, ce serait fantastique.
Et à los aficionados, fantastique. Manu, la technique classique de mettre la pression sur l'adversaire, c'est eux les plus forts, c'est eux les meilleurs. Ouais. On est sur de la communication ou tu penses vraiment qu'il redoute l'attaque française?
Je sais pas s'il la redoute. Sûrement qu'il doit la redouter parce que c'est quand même trois super joueurs qui jouent dans des grands clubs. Après, je sais pas vraiment si se préoccupe de l'équipe adverse. Alors il doit s'en préoccuper bien sûr sur le tableau noir où il doit faire attention avec un tel par rapport aux joueurs. Mais je pense qu'il est plus concentré sur son groupe à lui. Comment va évoluer son équipe dans le collectif qu'il nous a montré contre l'Italie? Et de temps en temps, le dire, oui, faites attention à quand même à Kylian Mbappé, il va très vite, c'est un dribbleur, mais il garde peut-être trop souvent le ballon. À Karim Benzema, faites attention à lui, parce que lui, dans la surface, alors là, s'il y a un ballon qui traîne, il va être là, il va être présent, il va marquer. Peut-être qu'il a dû dire, Griezmann, vous savez, en ce moment, il n'est pas très en forme, il y a un échec à Barcelone, il a du mal à revenir à l'Atlético. En équipe de France, il marque pas mal de buts, il brille, mais c'est pas non plus un Griezmann de haut niveau. Donc voilà, je pense qu'il reste plus concentré sur son équipe que sur l'équipe adverse.
Rendez-vous à partir de 14h pour les dernières infos concernant l'Espagne au moment du Grand Prix de Turquie. On fera les deux, on s'intéressera également à Belgique-Italie, le match pour la troisième place qui aura lieu à 15h à vivre sur RMC. On remercie Jeannot Rességuier à Milan. Jeannot,
ciao à toutes.
Rapidement, une dernière question très importante.
C'est la plus importante concernant la rencontre de ce soir.
Est-ce que tu as trouvé des pins pour ta collègue?
Bah, tu dois me suivre sur Twitter,
oui,
et tu verras, il y a les photos des pins.
On les a vus, tes pins.
Les deux derniers de ce matin.
À Turin et à Milan.
Voilà exactement. Turin et à Milan. Avec
une ville, tu fais.
Tu ne les avais pas?
Deux clubs, parfait.
Non, celui de l'Inter, ils ont modifié le logo.
Ah oui, c'est vrai.
Je
ne
l'avais pas. Et celui du Milan, c'est l'anniversaire, 1899-2019. Donc voilà, ils vont rentrer dans la collection.
La collecte est complétée. Merci Jeannot. Bon après-midi.
Salut Jeannot.
Tout le monde après-midi à ce soir, 20h45. Manu, tu restes là, l'intégrale.
Ah ben oui, je reste là, bien sûr.
L'Espagne, dans quelques minutes, le match pour la troisième place. Et puis, évidemment, la Formule 1.
Et oui, le Grand Prix de Turquie arrive à grands pas. Lewis Hamilton. Hamilton parti 11e pénalisé, pourra-t-il faire une remontada comme il le fait très souvent d'ailleurs? Réponse avec Jean-Luc Roy.
A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot. RMC Intégral Foot.
Oussem Loussaïef, Thibaut Giangrande.
Emmanuel Amoros, comme tous les dimanches, vous le savez, à 13h, notre membre de la Dream Team est là pour d'habitude la Ligue 1. Mais Manu est là, même si la Ligue des Nations ne le passionne pas plus que ça.
Ne dis pas ça, s'il te plaît. Ça me passionne. C'est quand même un beau match. Ça me passionne. Mais je trouve il y a beaucoup de risques pour rien.
C'est ce soir, la finale France-Espagne.
On va dire un risque à 10 millions d'euros.
On le prend.
Tu blesses un ou deux joueurs, c'est pas grave.
À 15h, vous suivrez en attendant pour nous mettre en appétit la petite finale entre l'Italie et la Belgique que nous avons battue mercredi en demi-finale. D'ici là, 13h43, autre événement à partir de 14h, Oussem.
Eh oui, le Grand Prix de Formule 1, il est là. C'est Jean-Luc Roy qui est avec nous pour nous parler de ce Grand Prix de Turquie. Salut Jean-Luc.
Salut Oussem, salut Thibaut, salut Manu.
Salut Jean-Luc.
Voilà. Jean-Luc, la grille de départ, le départ dans 17 minutes, on va vibrer dès le premier virage.
Eh ben oui, tu sais qu'il faut bien regarder, hein, parce que Ricardo a décidé de regarder les changements.
Oui,
c'est ce que je voulais dire. Oui. Parce que Ricardo, au dernier moment, l'équipe McLaren a décidé de changer le moteur uniquement, apparemment. Donc, comme il était déjà loin sur la grille, c'est plutôt stratégiquement bien joué. Il s'était loupé en qualif, hein. Il était seulement normalement 15e sur la grille. Ouais. Donc, il prend 10 pions, comme il n'y a que 20 places, tu as compris. Donc, il se retrouve sur la dernière ligne, au niveau de Carlos Sainz, qui, lui, avait déjà décidé, enfin, l'équipe Ferrari, en début de week-end, de changer la totalité, ce qui était arrivé à Charles Leclerc. Faut suivre, hein. C'est vrai qu'avec ces histoires de pénalités d'éléments techniques, il y a de quoi s'y perdre.
Alors, dans un instant, Manu, je sais qu'il y a une question pour toi. Est-ce que tu peux juste nous donner le top 10, là, juste Jean-Luc nous donne le top 10 après ta question?
Oui, je peux.
Alors, bon, d'accord. Est-ce que tu peux le...
Tu sais quoi? Arrête-toi là.
Fais-le, Jean-Luc, s'il te plaît.
Oui, Valtteri Bottas est en pôle. Mais c'est pas lui qui a fait le meilleur temps. Bah, bien sûr. Puisque c'était Hamilton. Mais lui, il prend des pions. Il prend 10 places. Ah, bah, je vous avais dit que j'allais vous perdre. Donc, première ligne. Allez, je vais être clair. Bottas, avec la Mercedes. À ses côtés, c'est là que c'est intéressant. Max Verstappen, évidemment. On rappelle qu'il y a 2 points d'écart. Ils sont baston pour le titre avec Hamilton. Deuxième ligne. Charles Leclerc avec la Ferrari qui marche fort. Lui, avec le nouveau moteur depuis le dernier Grand Prix, à ses côtés Pierre Gasly, formidable, avec l'AlphaTauri. Troisième ligne, Fernando Alonso, qui a tiré le meilleur de l'Alpine, avec Sergio Pérez, le coéquipier de Verstappen. Donc, on va parler de la remontée d'Hamilton, j'imagine, dans un instant.
Oui.
Et puis derrière, Lando Norris, avec la McLaren, qui a mieux marché que celle de Ricardo. Et puis, à ses côtés, Lance Stroll, qui était en pôle l'an dernier. Alors, faut le rappeler, la seule pôle de Lance Stroll, c'était sous la pluie, sur ce tracé-là, exactement. Et puis derrière, eh bien, on a Tsunoda, qui s'est vraiment bien qualifié avec des pneus tendres, avec Vettel à ses côtés, et enfin Hamilton, 11e. Voilà.
Jean-Luc, avant qu'on parle des conditions météo, et tu as parlé de la pluie éventuellement qui pourrait arriver, Manu, tu as une question, toi, pour Jean-Luc.
Oui, juste pour revenir par rapport au changement de moteur, excuse-moi, Jean-Luc, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le bloc moteur échangé sur Hamilton, il part 11e.
Ouais.
Et et qu'on change par certaines pièces, c'est ça? On change pas tout le bloc moteur et les pièces, alors, sinon ils seraient partis en dernier.
Alors, comme j'ai deux heures devant moi, c'est ce que j'ai toujours, je vais vous le faire.
Oui, pas loin, t'as une minute et trois secondes.
Une minute et trois secondes. Ouais. Je vais faire moi. En deux mots, Manu, quand on parle de moteur maintenant en Formule 1, c'est pas un moteur. On appelle ça l'ensemble du groupe motopropulseur. Tu peux prendre des notes.
Oui.
Je répéterai pas. Ça veut dire qu'il y a six éléments. Alors, parmi ces éléments.
On dirait le doc dans Retour vers le futur.
Voilà. Heureusement, il y a
C'est important, c'est intéressant.
Voilà. Il reste quand même un moteur thermique. Alors, le moteur thermique, c'est celui que toi t'appelles un moteur, et moi aussi d'ailleurs. C'est le vrai, c'est le V6, tu vois. Qui est, bon, voilà, qui est avec les turbos. Alors, les turbos, c'est l'un des éléments. Les éléments de récupération énergétique, c'est-à-dire électrique, qui chargent les batteries, il y en a un au freinage, il y en a un à l'accélération. Tu as une centrale électronique, voilà. Donc, si tu veux, normalement, tu as droit à trois éléments à peu près, sauf les échappements. Voilà, ce que on en parlait hors antenne avec Thibaut, j'ai oublié les échappements qui font aussi l'objet. Alors les échappements, t'as le droit d'en changer. Je crois que c'est 6, si je me rappelle bien dans la saison. Les autres, c'est 3. Donc dès que tu dépasses les 3, c'est le cas du moteur. Tu prends des pions. Et si tu n'en changes qu'un, ce qui est le cas là, tu changes que le moteur pour Hamilton. Tu prends 10 places. Si tu changes deux ou trois éléments, bah t'en prends 50.
Verstappen. Est-ce que pour résumer et d'être sûr d'avoir bien compris, Verstappen a changé l'intégralité de son moteur. Il part dernier. Hamilton n'en a changé qu'un élément, il prend 10 places de pénalité.
C'est exactement ça. En fait, il aurait dû prendre 50 places, mais comme vous le savez, il n'y a que 20 pilotes sur la grille, donc on le met 20e, ça suffit largement.
Le Grand Prix de Turquie, le départ dans 13 minutes, ce sera à vivre en direct sur RMC. La lutte Hamilton-Verstappen va continuer avec Jean-Luc, on n'en oublie pas le foot pendant ce Grand Prix.
Oui, petit focus sur l'adversaire de l'équipe de France ce soir, 20h45 pour la finale de la Ligue des Nations. Ce sera l'Espagne, on parlera de ça avec Fred Hermel, notre drôle de dame correspondant donc en Espagne. Et qui connaît l'Espagne sur le bout des doigts.
La Turquie, il pleut, c'est ça la Turquie aujourd'hui, en tout cas le Grand Prix. Dans un instant, les conditions météo et le départ sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Foot.